par saint Thomas. Donc dans la progression du Sefer Shemot, on a passé par la sortie d'Égypte, par le passage de la mer, on a reçu la Torah, et ensuite il y a eu toute une parasha, la parashat Mishpatim, pour nous donner une quantité de halakhot, une quantité de lois, qui ont la même autorité, si vous voulez, que les dix commandements, par exemple, parce que tout ça, ça a été donné au Sinaï. Et puis, bon, on sait que quand les Bnei Israël étaient au Sinaï, après avoir reçu la Torah, ils ont fait le veau d'or. Donc là, on se serait attendu, après Mishpatim, qu'on nous parle du veau d'or. Or, vous savez bien que le veau d'or sera évoqué dans Parashat Kitissa, c'est-à-dire après Trouma et Tetzavé, il y aura une paracha qui s'appelle Kitissa, dans laquelle on va parler du veau d'or. Et donc, il y a, en quelque sorte, il y a un trou dans la description de l'avancée des Bnei Israël. Et tout à, dans ce trou-là, il y a deux parchiotes, deux parchiotes, disons, qui sont consacrés essentiellement à la construction du Mishkan, à l'idée de Mishkan, à la construction du Mishkan. Et puis, après le Vaudor, on continuera de parler, effectivement, dans les autres parchiotes, effectivement, de ce sujet de Mishkan. Donc, les deux parchiotes de Trouma et Tetzavé sont un peu étranges, là, à cet endroit-là. Alors, on va d'abord voir que ce Mishkan, qui est, dont la construction est annoncée ici, elle est ordonnée ici, ce Mishkan, en fait, il est vu de deux manières. Il y a une partie des Mefarshim, des commentateurs, qui disent qu'il faut lire le texte comme il est, c'est-à-dire le Mishkan, il a été donné ici avant le Vaudor, avant l'épisode du Vaudor. Par conséquent, le Mishkan était quelque chose qui était prévu de toute éternité. Dans le plan divin, il y avait de construire un monde, créer un monde, et puis ensuite d'habiter ce monde. Quand je voulais habiter dans ce monde, dans le monde qu'il venait de créer, ensuite ça n'a pas été possible parce que Adam et les autres ont fait des fautes qui ont d'une certaine manière empêché la Shrina, la présence divine, d'être dans ce monde. En quelque sorte, c'est comme s'il l'avait systématiquement éloigné de ce monde, avec toutes les fautes qui ont été commises, et la redescente de la possibilité, donc de la présence divine dans le monde, elle a commencé par, c'est avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Et ensuite, jusqu'à la dernière étape, c'est Moshe Rabbeinu qui va descendre, qui va amener la présence divine dans le monde, qui va permettre la présence divine dans le monde. C'est une opinion. Il y a une autre opinion qui dit qu'en réalité, ces parchiotes-là, elles ne sont pas à leur place. Elles devraient être écrites après le Vaudor. C'est-à-dire que ces parchiotes, le Mishkan, est une conséquence du Vaudor. Alors, même cette conséquence, on peut la lire de deux manières. On peut dire, c'est en fait la preuve qu'Hachem a pardonné au Bnei Israël la faute du Vaudor, puisque il admet la possibilité de sa nouvelle résidence dans le monde. Ou bien on peut dire que le Vaudor a montré que les Bnei Israël n'étaient pas capables de vivre avec une notion aussi abstraite qu'Hachem. C'est donc à partir du moment où, Hachem n'intervient pas en permanence dans le monde, il n'était pas capable de vivre cela, et donc il fallait faire quelque chose, une concession, et le Mishkan et tout ce qui va s'y jouer est une conséquence, une concession. Ça c'est la grande opinion du Rambam dans le Moren Vuchim, mais il n'est pas tout seul à penser cela. Voilà, c'est une concession. Il y a quelque chose dans ce Mishkan qui est plus concret et qui aide les Bnei Israël à vivre avec Hachem en quelque sorte. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un Mishkan? Qu'est-ce que c'est que cette construction? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que c'est une tente? Et pourquoi est-ce qu'il y a tellement de détails qui sont précisés jusqu'à toutes les mesures, les matières, etc. Visiblement, certains disent, comme Rambam, ils disent que bon, il ne faut pas regarder dans le détail. C'est comme ça. Il ne faut pas essayer d'expliquer le détail des choses. Il y a beaucoup de commentateurs, évidemment, qui s'opposent au Rambam et qui vont, dans toute la mesure du possible, essayer de donner du sens aux éléments de la construction et aux ustensiles, puis aux vêtements des Kohanim, etc. Le Ramban, lui, il a une chita intéressante. Le Ramban, il pense que le Mishkan, c'est un espèce de Sinaï portatif. C'est-à-dire pour Ramban, l'expérience du Sinaï, donc la rencontre entre les hommes et Hachem, les Bnei Israël et Hachem, elle a eu lieu au Sinaï, et d'une certaine manière, HaKadosh Baruch Hu veut favoriser cette rencontre, il veut qu'on la continue en quelque sorte, et le Mishkan est un lieu dans lequel on peut continuer ce qui s'est passé au Sinaï. On a vu que quand on a parlé du Beth Amikdash ou du Mishkan, enfin surtout du Beth Amikdash, au début de Parshat Mishpatim, le fameux Vav de Ve'ele nous avait indiqué qu'Akadosh Baruch Hu voulait mettre sur le même plan, en quelque sorte, les mitzvot qui ont été données au Sinaï, les mitzvot, les verticales, c'est-à-dire celles qui concernent la relation entre Hachem et les hommes, ou les hommes et Hachem, et il faut mettre sur le même plan les relations interhumaines. C'est-à-dire, il faut mettre sur le même plan les lois gouvernant les relations interhumaines, c'est-à-dire celles de Mishpatim, avec les lois qui, juste avant la parasha de Mishpatim, parlaient de trois halakhot précises concernant le Mizbeach, en quelque sorte. Concernant le Mizbéar, l'autel, et aussi le Aaron HaKodesh, etc. Et donc, pour Ramban, il s'agit de perpétuer, si vous voulez, ce moment. Mais si il faut qu'il y ait, pour que le Beth Amikdash ne devienne pas l'analogue d'un temple idolâtre, il fallait qu'il y ait cette fameuse chambre à l'intérieur de l'enceinte du Beth Amikdash, cette chambre dans laquelle siégeait le Sanhédrin. Pour montrer que c'est sa place, quoi. C'est dans le lieu de la relation verticale, il faut y installer le lieu de ceux qui vont gouverner les relations horizontales. Donc on peut se demander, il n'y a pas une telle chambre dans le Mishkan. Alors comment est-ce que, si ça c'est fondamental, comment on se débrouille pour que quelque chose de cet ordre-là se retrouve dans le Mishkan? Mais là on peut peut-être dire la chose suivante, ce qu'on a déjà vu souvent, c'est que le Mishkan c'est bien le lieu où on va apporter les korbanotes. Mais est-ce que c'est la fonction essentielle de ce lieu? Alors, on sait que, par la suite, Moshe Rabbeinu, quand il va parler avec Hachem, il va aller dans le Mishkan. Oui, il va aller parler, parce qu'Hachem va lui parler à partir d'un point qui est situé entre les deux Krouvim. C'est-à-dire la voix que Moshe entendait, elle lui semblait venir d'entre les deux chérubins qui sont sur le couvercle du Aaron HaKodesh. Et donc, il faut entendre, je pense, qu'une des fonctions du Beit HaMikdash, du Mishkan, c'est d'être le lieu où Hachem va parler avec Moshe Rabbeinu et va donner à Moshe Rabbeinu les lois. Donc, à ce moment-là, c'est, si vous voulez, l'embryon du Sanhedrin. Moshe Rabbeinu, il est Shakul Keneged Kulam, il pèse aussi lourd que tout un Sanhedrin à lui tout seul. Alors, il ne peut pas juger tout seul, dans certains cas, mais si par exemple on prenait un tribunal de 3 personnes, si Moshe était l'une des 3 personnes, ce tribunal de 3 personnes avait la même autorité, la même fonction que le Sanhedrin de 70 membres. On dit que Moshe Shakul Keneged, en fait il pesait autant que tout le clan d'Israël, si vous voulez. Donc on peut penser, effectivement, que il faut l'entendre comme ça, une des fonctions essentielles du Mishkan, c'est d'être le lieu où s'élaborent, disons, entre Hachem et Moshe Rabbeinu, où s'élaborent les lois qui vont gouverner les relations entre les hommes. Et comme ça, on a dans le Mishkan aussi cette même structure que celle qu'on a apprise à partir du fameux Vav de Mishpatim. Bien, alors, pour construire le Mishkan, alors, disons que il y a une question qui est posée régulièrement, qui est que à Sukkot, nous disons que il y a une kavana, il y a une intention quand on va s'installer dans la Sukkah, on le fait le man yedou dorotechem ki basukot oshavti et ben Israël. Pourquoi je voulais donner la mitzvah de Sukkah? Pour que toutes les générations, depuis donc celles qui l'ont vécu et nous et nos enfants, sachent que j'ai, dit Hachem, j'ai installé les Bnei Israël dans des Sukkot. Alors il y a une discussion pour est-ce que c'était vraiment des cabanes ou est-ce que le mot Sukkot ici fait référence aux nuées de gloire qui entouraient le camp des Bnei Israël. Les camps des Bnei Israël. De toute manière, c'est ça qu'on appelle Sukkot. Et on dit, quand est-ce que ça a eu lieu? Ben, lorsque j'ai fait sortir les Bnei Israël d'Égypte. Mais tout le monde pose la question, mais dans ce cas-là, il faudrait souffrir Sukkot juste après Pessah. Puisque c'est à ce moment-là qu'on était dans les Sukkot. C'est à ce moment-là qu'Hachem nous a installés dans les Sukkot. Alors il y a une célèbre réponse du Gaon de Vilna qui dit que les fameux Anané Kavod, les fameuses nuées de gloire qui entouraient le clan d'Israël et qui le protégeaient, ces nuées de gloire, lorsque les ministres ont fait la faute du veau d'or, ces nuées s'en sont allées. Et d'abord, ils s'en sont allées parce que c'est le moment où Hachem avait dit « Je vais détruire le clan d'Israël ». Et quand Moshe Rabbeinu a intercédé, et qu'il a obtenu le fameux sursis et qu'Hachem n'a pas détruit les Bnei Israël, alors, dans ce cas-là, on peut lire la chose de la manière suivante et dire que, si on le lit comme je vous l'ai dit, comme le Mishkan vient montrer qu'Hachem a pardonné aux Bnei Israël, alors, le pardon des Bnei Israël, nous l'avons appris à Yom Kippour. Quand Moshe Rabbeinu est redescendu avec les deuxièmes tables de la loi, on a vu qu'Hachem avait pardonné et il nous avait redonné d'autres tables de la loi. Et donc, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu a donné, sur l'ordre d'Hachem, l'ordre qu'on allait construire le Mishkan, les gens ont dû apporter les matériaux, et on a commencé la construction effective du Mishkan à Sukkot. Et c'est pour ça que nous qui vivons entièrement sur les deuxièmes Luchot, puisque les autres elles ont été brisées, nous vivons sur Yom Kippour, si vous voulez, et bien nous vivons avec un Sukkot qui parle des nuées de gloire qui sont revenues quand Hachem a pardonné. Et c'est de ces nuées de gloire-là qu'on parle quand on dit que Hachem nous a installés dans les Sukkot. Alors, on a gardé la terminologie. Il y avait déjà eu ça au moment où on est vraiment sorti d'Égypte. Mais c'est revenu. Et donc, on fait les deux choses. On dit, on parle des Luchot, on parle des nuées qui nous ont été données au moment où nous sommes sortis d'Égypte, on commémore, enfin, on fait quelque chose qui rappelle cela en s'appuyant sur les deuxièmes, sur le retour des nuées de gloire après qu'Hachem ait pardonné au Bnei Israël la faute du veau d'or. Oui, enfin, c'est une marque Hachem, voilà ce qui s'est concrétisé. Comment est-ce que je vous ai donné le pardon en vous donnant des Luchot, mais le clan Israël, qu'est-ce qu'il a expérimenté? Il a expérimenté les Sukkot, que ce soit des vrais Sukkot, des vrais cabanes, ou que ce soit les nuées qu'il a vues, concrètement, ils ont plus expérimenté ça que les deuxièmes Luchot. Les deuxièmes Luchot, on les a reçus et puis on les a mises de côté. Mais après, ça a duré des années, si vous voulez, dans la suite de ce qui s'est commencé quand on est sorti d'Égypte, qui a été interrompu avec le veau d'or et qui a recommencé après, puis ensuite on a vécu assez longtemps avec ces fameuses nuées. Bien. Alors maintenant, quand Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre d'Hachem de construire le Mishkan, Moshe Rabbeinu a dit, je ne comprends pas, je ne sais même pas de quoi est-ce que tu parles là. Il m'a dit, Hashamayim mushmei Hashamayim lo yichalkelucha, les cieux et les cieux des cieux ne pourraient pas te contenir, et comment tu veux que je construise quelque chose qui s'appelle ta résidence, qui puisse te contenir? Et là, Moshe Rabbeinu a eu cette réponse d'Hachem qui lui a dit, écoute, toi, tu ne t'occupes pas de ça. Toi, tu fais avec tes petits trucs là, avec tes Legos, tu vas construire ce que je t'ai dit de faire. Et moi, je me débrouille pour résider dans ce que tu auras construit. Ça, c'est comment je réside, c'est mon problème. Et donc, maintenant, Moshe Rabbeinu avait néanmoins, semble-t-il, des difficultés à concevoir les choses, bien que ce soit un peu compliqué, parce que d'un côté, Hachem m'avait donné un plan très très clair. On a du mal à comprendre que Moshe ne voyait pas. Alors, est-ce que il y a un plan, ce plan c'est une description, donc c'est, si vous voulez, en deux dimensions, c'est un texte, et puis il fallait construire quelque chose en trois dimensions. Alors Hachem a montré à Moshe Rabbeinu, dans le ciel, en feu, le Mishkan tel qu'il devrait être. Certains veulent même dire que, pourquoi c'était en feu? Parce que le feu, il va, avec différentes couleurs du feu, il va souligner certains points ou certaines particularités de ce qui a été construit. Maintenant, il y a encore une autre question. D'accord? C'est... Ok, ces matériaux, ils viennent d'où les matériaux avec lesquels on a construit? Alors, il va y avoir des bois Atzei Shittim, des bois de Shittim, qu'on a traduit par bois d'acacia. J'ai fait un lavé Malka là-dessus, sur ces bois d'acacia. C'est des bois qui ont été plantés par Abraham Avinu, qui ont été transportés en Égypte par Yaakov, qui sont sortis d'Égypte avec Moshe Rabbeinu, et qui ont été utilisés dans la construction du Mishkan. Ça, c'est le bois. Le bois, il a une tradition. Ce qui est en bois, ça vient de la nuit des temps. Ça vient d'Abraham Avinu, disons, à travers Yaakov. Si vous voulez, le bois, par opposition aux autres matériaux, le bois, il représente le vivant, en quelque sorte. Alors, si on peut dire, la trace de vie, elle remonte jusqu'à Abraham Avinu. Bon, alors il va falloir amener des matériaux. Et donc la liste des matériaux, elle a été donnée par Hachem à travers Moshe Rabbeinu. D'accord? Ça veut dire... Qu'est-ce qu'on va faire avec... de quoi est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin d'or, d'argent, de cuivre, de laine teinte en bleu, enfin en trélette, en bleu ou en rouge, et des peaux de bêtes, on aura besoin d'huile pour l'onction, on aura besoin d'huile pour la menorah, on aura besoin de pierres précieuses. Tout ça, hein, ça vient d'où, ça? Alors, ça, ce sont les Bnei Israël qui l'ont amené. Ils l'ont amené sur l'ordre d'Hachem. D'où est-ce qu'ils avaient ça? Ben, tout ça, c'est des restes, enfin des éléments, du fameux butin à la Yam, sur la mer, et le butin, l'or et l'argent, qui a été emprunté, selon, et dont on a déjà parlé, en Égypte. Donc, si vous voulez, d'une certaine manière, quand Hachem a dit à Abraham Avinu, quand tes enfants qui ont été esclaves en Égypte vont sortir, ils vont sortir avec un grand butin, le butin, c'est pas simplement, si vous voulez, la valeur marchande des biens qu'ils ont eus, mais c'est la valeur spirituelle dans la mesure où ça va permettre de construire le Mishkan. Bon, sinon, les Bnei Israël n'auraient pas pu construire le Mishkan. D'accord, s'ils n'avaient pas tous ces matériaux, on n'aurait pas pu construire. Enfin, Hachem aurait trouvé d'autres solutions, bien sûr. Mais en tout cas, les Bnei Israël n'auraient pas pu participer et apporter leur contribution. Ok, donc ils vont l'apporter. Mais le problème, il s'agit de la construction de la résidence d'Hachem. Et alors, si vous réfléchissez, je ne sais pas comment vous représentez la chose, qu'est-ce que ça veut dire qu'on va construire une résidence pour Hachem? Ça veut dire que quand on va apporter les matériaux, on peut apporter les matériaux de deux manières. Ou on apporte les matériaux parce que on nous a ordonné de les apporter, où on apporte les matériaux parce qu'on a eu envie de les apporter. sont deux démarches. Si vous voulez, d'un côté, c'est un impôt, et d'un autre côté, c'est vu comme un bénévolat, enfin, des dons. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir pour construire le... pour les matériaux de la construction de la résidence d'Hachem, qu'est-ce que vous diriez? Il vaut mieux utiliser les matériaux qui sont imposés, enfin, dont le don est imposé, c'est un impôt, si vous voulez, ou est-ce qu'il vaut mieux dire aux gens, apportez ce que vous voulez, et puis vous avez le droit d'apporter, bien, donc ils vont apporter ce qu'ils ont envie de donner. Qu'est-ce que vous diriez? Pardon?
Imposer.
Un impôt, deux impôts. Impôt aussi, trois impôts. Pardon, vous? Le contraire. Trois, un. Ok. Il vous reste deux voix.
Envie,
comme Emeline. Et c'est bon, ça fait 3 contre 3, c'est parfait. Rachel, on ne le demande pas. Et... alors, en vérité, on l'a fait tous les deux. C'est ça le texte. On va faire les choses d'une façon presque impossible à se représenter. Regardez le texte. « Vaidaber Hachem el Moshe el mort, daber el bnei Israël, ve yikru li trouma. Dis-leur et qu'ils prennent pour moi une trouma. » Ça, c'est un impôt. D'accord? Yikru, ça veut dire ils prendront. C'est un ordre. De qui est-ce qu'ils prendront? Met koli shacherit venolibo. Ils le prendront de tout homme qui aurait ce que son cœur porte à donner. D'accord? Ça veut dire on va mettre un impôt que ne paieront que les gens qui avaient envie de donner. Donc, visiblement, on voulait faire les deux choses à la fois. Il faut que, parce que et c'est très normal qu'on fasse deux choses à la fois, parce que c'est une façon de dire on sait bien que c'est impossible à faire. C'est une façon de dire on sait bien que c'est impossible de construire une résidence pour Hachem. Et que on peut pas dire ah c'est parce que moi j'ai bien voulu, etc. Non, ben, ou bien non, mais nous on n'y est pour rien, hein, on nous a obligés. Il y a les deux choses. À la fois, on est à la fois obligé, à la fois, on veut prendre ceux qui veulent bien donner. Et en plus, c'est répété. Vezot a trouma asher tikru miitam. Et ceci est la trouma que vous prendrez d'eux. Donc là, voilà, c'est un ordre, vous prendrez. Pas que vous leur demandez, vous accepterez, mais vous prendrez. Bien. Alors ensuite vient la liste. Voici la trouma. Alors le mot trouma, d'ailleurs, je pense qu'il est assez bien rendu par prélèvement. Parce que la racine de trouma, c'est ram. Ram, c'est élevé. Et un prélèvement, c'est bien quelque chose qu'on élève. Alors, la trouma, d'abord, c'est les trois métaux. L'or, l'argent et... on dit le cuivre, mais c'est peut-être aussi du bronze ou de l'airain. Enfin, en général, c'est plutôt un alliage de cuivre, quoi. Maintenant, il y a tout de suite une remarque que vous pourriez faire. Tout de suite, c'est que c'est un petit problème. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec de l'or? L'or, c'est malléable. Qu'est-ce que tu vas faire avec de l'or? On ne peut pas construire quelque chose avec de l'or. L'or pur, ça ne tient pas. On verra. Ensuite, donc, Trelet, Argaman, Tolat, Chani, je vous ai lu la chose déjà. Donc, première chose, Hachem n'annonce pas du tout, on ne dit pas du tout au Bnei Israël pourquoi il donne. D'accord? Tu leur diras qu'il faut donner. Impôt ou bénévolat, mais ou générosité, il faut donner. Et au verset 8, Regardez ce que dit le texte. Vaasuli migdash veshachanti betocham. Ils feront pour moi migdash. Donc la connotation c'est la sainteté. Migdash, oui. C'est quelque chose de consacré, de saint. Veshachanti betocham. Et je résiderai parmi eux. Rashi dit, Vasu l'imigdash, Vasu l'ishmi. Le li veut dire l'ishmi. Ça doit être fait pour Hachem. Vous ferez quoi? Beit Kedusha. Une maison de sainteté, maison de la sainteté. Et ensuite, Veshachamti Betocham. Je résiderai parmi eux. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je résiderai parmi eux. Évidemment que quand Hachem a dit vous allez me faire une résidence, d'accord? Ben, ils vont la faire, ça sera parmi eux. Automatiquement, ils ne vont pas aller la faire à un endroit où complètement en dehors des endroits où ils vont camper, et du coup, on ne s'en occupe plus. Donc, automatiquement, il va résider parmi eux. Et donc, c'est pour ça que les Chachamim ont entendu ici que Veshachanti Betocham, c'est pas simplement vous allez me faire un Mikdash, mais je vais résider en eux, c'est-à-dire en fait je vais résider dans le cœur de chacun. C'est ça la dracha. Et du coup il faut qu'on comprenne exactement c'est quoi cette histoire. On nous dit de faire une maison, disons un Beit Kedusha, d'accord? Et Hachem dit mais je vais résider dans le cœur de chacun. Là, si c'est pour résider dans le cœur de chacun, il n'y a pas besoin de faire une maison. Donc il va falloir qu'on jongler un petit peu avec cette idée de je vais résider parmi eux. Comment est-ce que ça peut vouloir dire? Bon, et alors prenons les choses. Je résiderai parmi eux, ça veut dire je serai dans le cœur de chacun. Alors, si vous voulez, pour le Ramban, qui dit que le Mishkan, c'est un Sinaï portatif, alors on va, d'une certaine manière, c'est le Shachanti Betocham pourrait vouloir dire, simplement, vous allez me faire ma résidence, et ma présence divine sera remarquée, remarquable, au-dessus de cette maison-là. Parce que la présence divine, elle est toujours au-dessus des maisons, en fait. Vous vous souvenez, la grand-mère Sarah, vous vous souvenez, elle avait un petit nuage au-dessus de sa tente, qui était la présence divine. Et chez Rivka, il est revenu aussi. Donc c'est une façon de manifester que Hachem est présent. Alors, le Ramban va dire, Shachanti Betocham, on verra très clairement que je réside là-bas. Mais la dracha qui dit je résiderai dans le cœur de chacun, comment est-ce que vous expliqueriez concrètement qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem réside dans le cœur de chacun? Oui, mais ça c'est pas dans le cœur alors. Tu veux dire le cœur comme mouvement. Je veux qu'il... Ça c'est déjà autre chose. Si je le prends à la lettre pratiquement, Shachanti Betocham, Je résiderai dans le cœur de chacun. Ça veut dire, le cœur, c'est l'instance dirigeante de l'homme. Le cœur, il est là, probablement, n'est-ce pas? C'est probablement, c'est ça. Le cœur, c'est pas la pompe. C'est la pompe. Le cœur, il est là. Et résiderai dans le cœur de chacun, ça veut dire que toutes les décisions que je prendrai, je les prendrai en pensant, je prends cette décision devant Hachem, en tenant compte que je me tiens devant Hachem. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ça, au fond, que c'est ça que le Klal Israël doit arriver à faire. Faire en sorte que dans toute sa vie, toutes les décisions soient prises en tenant compte d'Hachem. C'est-à-dire en étant conforme à la volonté d'Hachem. Alors si c'est ça, si c'est ça le travail intérieur qui doit être fait, alors à quoi sert l'attente, à quoi sert le Mishkan en fait? Cette construction, à quoi elle sert si le but de l'exercice c'est d'avoir quelque chose en nous? Peut-être, ou bien ça vient pour nous rappeler, pour nous aider. D'accord? À tout moment on voit, s'il est en plein milieu, on le voit tout le temps, il est un espèce de rappel. Bon, c'est probablement essentiellement ça. Et puis, on peut aussi dire que résider dans le cœur de chacun, c'est une chose. C'est, vous voyez, c'est descendu au niveau des individus, mais il faut aussi qu'il y ait une dimension collective de cette résidence parmi les Bnei Israël. Et ça, c'est l'attente. L'attente, c'est Oel Moed, c'est l'attente des rendez-vous, etc. Et c'est Moshe Rabbeinu qui, au nom de tout Israël, va aller discuter avec Hachem. Il va recevoir la Torah, recevoir la parole d'Hachem. Ça, c'est la dimension collective de cette résidence d'Hachem dans le clan d'Israël. Donc, il y a une dimension, je dirais, individuelle et une dimension collective. Alors justement, ça c'est peut-être justement le danger. Parce que le danger, c'est que justement, si c'est... Il y a un danger que cette chose extrêmement concrète, etc., dans laquelle réside Hachem, devienne Hachem, quoi, quelque part. Il y a un risque de prendre, de faire une adoration, si vous voulez, une idolisation. On va en faire une idole. Il y a un risque qu'on fasse une idole. On peut faire une idole de la Torah. On peut tout transformer en idole. Donc il y a un risque à faire. Le Mishkan, il porte en soi un risque de devenir une idole.
Un risque nécessaire. Parce que le porter qu'en soi et sans faire ce soi, il y a aussi le risque de vivre en ermite.
Non, mais il était clair que quand les gens... Il ne s'agit pas du tout de vivre en ermite. Il s'agit de prendre des décisions concernant ma relation avec les autres en fonction de ce qu'Hachem m'a donné. C'est toute la paracha de Mishpatim.
C'est pour ça que vous avez demandé l'intérêt de construire le Mishkan. Pourquoi construire puisqu'on a Hachem en soi? C'est parce qu'il faut passer à des contraintes. Il ne faut pas rester qu'avec de...
Non, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Parce que le Mishkan, ce n'est pas le lieu où on va faire des choses... On va faire les mitzvot concrètes. Il y a les mitzvot qui sont liées au Mishkan, mais celles qui sont dans Mishpatim, les relations entre le commerce des gens entre eux, si vous voulez, il ne se fait pas dans le Mishkan. Pardon? Oui, mais justement, mais c'est ça le problème, si vous voulez. Si vous regardez l'évolution du Mishkan, il a fini par devenir le Beth Amikdash, et le Beth Amikdash, il a fini par devenir un temple. C'est pour ça qu'il a été détruit. C'est pour ça que je voulais montrer que dans le Mishkan, il y avait déjà cette dimension horizontale qui est concrétisé par la fameuse chambre de, qui était le siège du Sanhédrin dans l'enceinte du Beth Amikdash, quand on a le Beth Amikdash. Maintenant, le Mishkan, lui, il a une caractéristique, c'est que on va le monter et le démonter sans arrêt. D'accord ? Puisque nous sommes à une époque de, où les Bnei Israël sont nomades, alors il va falloir que le Mishkan, la présence divine, elle suive les Bnei Israël. D'accord ? On a besoin. Alors en vérité, pour qu'il n'y ait pas cette dimension de suivisme complètement de la Torah qui suivrait la Torah, alors on a dit, on sait que les tribulations des Bnei Israël, elles étaient gouvernées par les mouvements des nuées de gloire. Quand la nuée de gloire se mettait en marche, les Bnei Israël savaient, voilà, il faut partir. Quand elle s'arrêtait, il faut camper. Alpi Hachem, c'était toujours les mouvements et les arrêts était gouverné par Hachem. C'est Hachem qui disait on campe ou qui disait on bouge. Alors, on nous dit, voilà, au verset Yud, Vasu Aaron Atseshitim. Vous voyez, c'est ces fameux bois d'acacia. Alors, on a reçu l'ordre de construire un Mishkan. D'accord ? On a amené les matériaux pour le construire. Il y a quelques... alors on dit ensuite, vous allez le faire, ce Mishkan, ce Mikdash Mishkan, et exactement comme je te l'ai montré à toi, Moshe, dans le ciel, quand tu ne comprenais pas. Et quand on passe à la phase, semble-t-il... des ordres concrets de construction des éléments du mobilier, du Mishkan et des ustensiles, on commence par le Aaron. D'accord. Alors, comme Betzalel va le dire à Moshe Rabbeinu, vous connaissez la fameuse discussion entre eux, Betzalel va dire à Moshe qui lui, Moshe il lui a dit les choses comme elles sont écrites ici. Mais Betzalel lui a dit, mais on ne peut pas faire une chose comme ça. Quand j'aurai terminé le Aaron, je vais le mettre où ? Je vais le laisser comme ça dans la rue ? Il faut qu'il y ait un endroit où je puisse le mettre. Donc il faut construire d'abord cet endroit. Il faut d'abord construire le Mishkan, et après les Kelim, après le mobilier et les ustensiles. Mais dans la théorie, on dit d'abord le Aaron, parce que c'est ça qui est fondamental, c'est-à-dire tout le Mishkan, il tourne autour du Aaron. Tout le Mishkan, c'est simplement un environnement du Aaron. Et le Aaron lui-même, c'est un environnement des Luchot, les tables de la loi. Qu'est-ce qu'il y a dans le Aaron? Il y avait trois choses. Il y avait les brisures des premières tables, les secondes tables et un Sefer Torah de référence. Le 13e Sefer Torah que Moshe Rabbeinu a écrit, il sera dans le Aaron. Il y en a 12, un Sefer Torah par tribu, vous vous souvenez, et un 13e qui est la référence, et lui, il est déposé dans le Aaron. Voilà. Alors, là, on nous dit, voilà, ils feront un Aaron, ils feront une... Aaron, c'est une armoire. On fera une armoire. Cette armoire, elle sera en bois de chitim.
L'intervention de Betzalel dans l'organisation de la construction, elle relève d'une déduction. C'est une déduction que Betzalel fait quand il dit je ne peux pas construire d'abord le...
Oui, alors Moshe va lui dire Betzel Kel Aïta. Tu étais à l'ombre d'Hachem quand il m'a parlé. C'est comme ça que Hachem m'avait dit qu'il fallait faire. C'est-à-dire, voilà ce qui est dit ici. Mais après, Hachem a dû dire le contraire à Moshe. Il lui a dit, mais concrètement, quand vous allez le faire, vous allez bien entendu faire d'abord un environnement où vous allez pouvoir déposer les kelim que vous aurez fabriqués. » Alors on dit, ce haron, il sera en bois. Alors il, voilà les dimensions, 2,5 en longueur et 1,5 en largeur et en hauteur. Donc 1,5 c'est au maximum 90 cm. Si je prends une amas à 60 cm, donc 1,5 c'est 90 cm et 2,5 c'est 1,50 m. Donc au plus, le haron, il était 1,50 m sur 90 de large et 90 de hauteur. C'est pas gigantesque, hein. La boîte là qui est derrière, l'armoire qui est derrière, elle n'est pas loin de ces dimensions-là, non? Peut-être pas 90 de... mais la hauteur, non, enfin... Si on considère la longueur ici, et c'est le carré au haut, disons que, au lieu de ce soit, combien il a là, 60, mais pas, la largeur, 50, 50, bon, là, il faut un peu plus, quoi. Et c'est un peu comme ça, une armoire à peu près, celle-là, un peu plus large. C'est pas gigantesque. Alors, le haron, il est dit ici, il est présenté, il est en bois. D'accord? De ces bois qui viennent depuis Abraham Avinu à travers Yaakov, qui ont été en Égypte, qui sont là dans le désert. Et ensuite, on nous dit, cet haron qui est en bois, Vetzipita oto zahav taor, tu le recouvriras d'or pur, mi bait ou mi chutz, à l'intérieur et à l'extérieur. Et dessus, tu lui feras une petite couronne en or aussi. Alors, Rashi et les Farshi vont expliquer. En réalité, le haron s'était constitué en trois boîtes. Vous avez une petite boîte, en or, qu'on met dans une boîte un peu plus grande en bois, et encore dans une boîte encore un peu plus grande en or. Donc finalement, l'intérieur et l'extérieur sont en or, l'intermédiaire est en bois. Et ça, on dit, l'Aaron, il est en bois. Alors qu'on ne voit pas le bois. Parce que même dans la tranche, tout est couvert d'or. Tu vas faire un haron en bois. Alors évidemment, grâce au bois, l'or va tenir. L'or va le plaquer sur l'or, il va tenir. Sur le bois, il va tenir. Tout seul, il ne pourrait pas tenir. Donc l'idée d'une boîte en or, etc., c'est une image. Parce que, mais en réalité, c'est pas tout à fait comme ça. Non, Moshe Rabbeinu en a écrit 13, un pour chaque tribu, et le 13e, il est là-dedans. Ensuite, tu vas faire, à cette boîte-là, tu vas mettre des anneaux, deux anneaux de chaque côté, dans lesquels on va mettre des barres, pour pouvoir transporter le haron. Bon, les gens transporteront avec des barres, transporteront le haron. Alors après, on va bien entendu apprendre que bien qu'il y ait une mitzvah de transporter le haron dans les barres, en fait, c'est le haron qui va porter ses porteurs. Bon, l'idée est très claire. On ne peut pas imaginer que quelqu'un puisse porter le haron. C'est la fameuse histoire, la tragédie qu'il y a eu quand on a ramené l'arche que les Philistins avaient volée. Elle était sur un chariot. Et il y avait des chaos de la roue. Et il y a quelqu'un qui s'est précipité, il croyait que ça allait tomber. Il est mort. Il est mort parce qu'il a oublié que c'était le haron. On peut pas, le haron ne va pas tomber. Maintenant, on pourrait dire... Effectivement, pourquoi il ne tomberait pas? C'est quoi? C'est pas Hachem qui tombe. C'est le Aaron qui tombe. Qu'est-ce que ça veut dire le Aaron, il porte ses porteurs? Qu'on puisse pas porter Hachem, on comprend. Mais pourquoi on ne pourrait pas porter le Aaron? Ça veut dire qu'on va considérer qu'étant donné que ce Aaron, il contient les Louchot, etc., alors il ne peut pas être soumis aux règles ordinaires de la pesanteur. À la limite, non seulement il n'est pas soumis à la pesanteur, mais il va porter ses porteurs. Ah, le Chine, le Samer, qui ne tiennent pas en miracle. Oui, bien sûr que c'est un miracle. Mais il faut comprendre, est-ce qu'il n'y a pas un risque, je veux dire, si on se met à dire que le Aaron ne peut pas tomber, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on se mette à adorer le Aaron comme quelque chose d'un
Aaron? Depuis le début, il y a du concret, et puis, ça n'est pas encore ça.
C'est important que nous comprenions qu'il se joue quelque chose d'important avec ce Aaron. Et donc on est obligé de lui donner des qualités, si vous voulez, qui nous permettent de comprendre que c'est ça le centre du Mishkan. Tout tourne autour de ce Aaron, alors il faut bien lui donner une puissance particulière, avec évidemment le risque qui est inhérent à toute la matérialité. C'est que dès le moment où quelque chose ne se conduit pas, enfin fonctionne pas comme on a l'habitude, alors les gens diront c'est un miracle, et après c'est très vite dit, c'est comme si la chose elle-même se faisait miraculeuse. C'est comme ça. Oui. La Shrina n'est sûrement pas dans les Kélim. Vous vous dites, par exemple, la présence divine, elle était dans ce fameux nuage qui était au-dessus de la tente, la tente de Sarah et de Rivka. Et le nuage, il était aussi sur le Moria. Quand Abraham Avinu était en chemin pour aller faire la Akeda, Hachem lui avait dit, tu vas aller là-bas, et il ne lui a pas dit où c'était. Et à un certain moment, Abraham dit aux gens qui l'accompagnent, à Ishmaël et Eliezer, vous voyez le petit nuage là sur la montagne là? Ils disent non, on ne voit rien. Ils demandent à Yitzhak et Yitzhak il voit le nuage aussi. Alors Abraham il comprend, c'est ça l'endroit où je dois aller, et eux ils n'iront pas parce qu'ils ne le voient pas, ils ne sont pas capables de voir. Quelque part il y a des... Bon, c'est l'invisible qui n'est visible que pour certains.
C'est quelques juifs là qui voient ce nuage. Ils sont arrivés à ce niveau.
Oui, ils se sont construits pour y arriver. En vérité, ce qu'on va voir, c'est... Certains expliquent que... C'est probablement la théorie du Kuzari, que tout ce qu'on fait, c'est pour se qualifier, pour être réceptif à ce qu'Hachem va nous envoyer, quelque part.
Parce que, on l'a en nous, puisqu'il est venu en nous, Hachem nous a créé avec quelque chose de lui.
Non, non, non. C'était une répartition très claire de qui faisait quoi quand on se... dans le démontage et dans le transport et dans le remontage, c'était très, très clairement réparti.
Là aussi, il faut une certaine madrigal.
Oui, mais même ça, par exemple, on va voir plus loin que quand on démonte le Mishkan, les gens ne devaient pas venir voir. Et la tribu qui va transporter, elle non plus, elle ne doit pas voir. Il y a les Kohanim qui, eux, de toute manière, ils sont dans le coup. Eux, ils voient, et c'est eux qui vont démonter. Et puis, on va mettre ça dans des grands tissus, très laits ou argama, enfin très laits, le bleu, azur. Et les porteurs, ils ont un truc emballé complètement. Et justement, on dit, la pasouk va dire, il faut prier, il faut aider la sous-tribu de Kahat, qui sont les transporteurs, parce qu'ils risquent leur peau.
C'est ça. C'est-à-dire là aussi, on peut basculer, quoi.
Oui. Oui, s'ils voyaient, ils mourraient probablement. Parce que si... Là, on comprend bien le risque. Le risque, là-bas, tout le monde explique que le Mishkan, quand tu le vois, il a une certaine prestance, il a une certaine beauté, etc. Mais si tu le réduis à ces éléments, quand on le décompose, qu'est-ce que c'est? Un peu de bois, un peu d'or, un peu de... C'est quoi? Bon, c'est... Il y a plein de choses. Si le corps humain aussi, si on le réduit à de l'eau, de la graisse, etc., bon, c'est pas très séducteur. Mais justement, il faut pas. Si vous voulez, c'est ça. Il y a une façon d'exposer la nudité du corps au sens où on exposerait quasiment la matière du corps, qui enlève tout charme au corps, par exemple, et toute beauté au corps, tout intérêt qu'on peut porter au corps.
Et ce corps-là, Hachem a mis quelque chose, puisqu'on porte le corps porte le déchet, on a de la transpiration, on a... Donc, c'est... Alors qu'il est vivant, qu'il est en unité,
mais c'est ça, son ami, c'est justement d'éliminer ce qui doit être éliminé. Donc il y avait ces barres, des anneaux dans lesquels allaient entrer les barres qui servaient de porteurs. Vous avez les mêmes anneaux et les mêmes barres pour transporter le shulchan, la table sur laquelle il y avait les fameux pains. Elle aussi, il fallait la transporter. On la transportait aussi avec des barres qui étaient glissés dans les anneaux. La grande différence, c'est que les barres qui sont dans les anneaux de la table, quand on campe, on enlève les barres et on les remet quand on veut se mettre en mouvement. Mais les barres qui servent au transport du haron, on ne les enlevait jamais. On n'a pas le droit de les enlever. C'est-à-dire que le haron, il était dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Il y avait un rideau qui séparait le Kodesh HaKodashim du Saint, du Kodesh, et on voyait la marque des barres sur le rideau, et c'était présenté comme c'était les points de saint de femme, en fait. Si c'était nourricier ou quelque chose comme ça, c'était ces barres-là qui étaient visibles. Enfin, la pointe des barres, la trace des barres, et donc il faut se demander... Si les barres essentiellement servent au transport, mais qu'on les enlève jamais, est-ce que c'est une façon de dire que le haron, il doit jamais être considéré comme complètement installé? Il est toujours sur le pied de guerre, il est toujours en train de partir, en train de... Est-ce que c'est ça? C'est une espèce de... un corps vivant, quoi, qui est toujours en train de... est capable de bouger? Il n'y a pas un état où il serait à l'arrêt complètement, comme le shulchan. Et ensuite, on peut le faire bouger, mais il a pas, on ne voit pas sur lui qu'il est en train de bouger, quoi. Tandis qu'avec les barres en permanence, on montre que ça bouge tout le temps, quoi. Et l'idée que ce soit représenté qu'il y ait une trace qui ressemble à un dessin, c'est nourricier, on entend aussi, c'est la vie, quoi. C'est quelque chose comme si ce haron était nourricier du clan Israël.
De
nous on dit que on travaille avec notre bouche, avec nos lèvres, c'est notre action. On dit au lieu d'approcher les taureaux comme sacrifice, on va lire, on va faire le mouvement des... C'est pour ça qu'il ne faut pas lire avec les yeux, mais lire avec les lèvres, en articulant, on n'est pas obligé de le crier, mais au moins il y a le mouvement des lèvres qui joue le rôle de... C'est ce mini mouvement qui est considéré comme une action et qui remplace le grand mouvement qui consistait à amener un taureau, donc faire la shrita, le depser, mettre la viande sur le misbéach, etc. Tout cet énorme travail, aujourd'hui, nous, on le fait avec le mouvement des lèvres, quasiment. Le mouvement des lèvres qui bouge en fonction du texte qui correspond à ce qu'on aurait fait ce qu'on fera peut-être un jour, nous, nos enfants, et qu'on fera un jour concrètement. Et donc là, maintenant, on peut dire la même chose, ça veut dire que là aussi, il faut imaginer que tout se joue ici dans l'étude, quoi. L'étude est le grand remplaçant, en quelque sorte, de tout. De toute la gestuelle, de toutes les mitzvot qu'on ne peut pas faire concrètement, eh bien, on doit les faire au niveau de l'étude. Du coup, on comprend très bien toute l'importance de la bouche. Et si c'est comme ça, on comprend aussi beaucoup, très bien l'importance du Lashon Hara, par exemple, ou... D'accord, ça veut dire que cette bouche qui est censée servir aux korbanot, quoi, quasiment, à faire des korbanot, si maintenant tu l'utilises pour autre chose, et encore pour des choses qui sont vraiment interdites, c'est gravissime. Autrement, on pourrait se dire, bon, c'est pas si grave, non. La parole, c'est gigantesque, c'est très 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 grave, quoi. Mais en plus, c'est toujours grave, mais en plus, puisque ça joue ce rôle-là, c'est d'autant plus grave. Tu veux dire que le fait qu'il n'y ait pas de geste, donc ça nous éloigne d'une éventuelle idolâtrie, quoi. Bah, pour Rambam, c'est sûr. Pour Rambam qui dit que on voulait s'éloigner, donc à la limite, même le Mishkan, ou le Metamigdash, les Korbanot, c'est déjà un éloignement. Donc si maintenant on continue dans cet éloignement, à la limite, on pourrait dire... si je vois le Mishkan comme par rapport au Korbanot, sans parler de ce dont j'ai parlé aussi sur l'étude, mais alors il y avait des hôtels domestiques et après on a fait des hauts lieux et puis ensuite des hauts lieux qui n'étaient pas n'importe où, hein, bien à des endroits bien précis, puis finalement ça a été remplacé par Yerushalayim au Beit Hamikdash, puis maintenant on n'a plus rien du tout. De ce point de vue-là, on pourrait voir ça comme une évolution vers... ok, on n'a plus besoin du tout de ça, d'après Rambam. Bon, ça voudrait dire que la tragédie représente la destruction du Beit HaMikdash, on pourrait lui donner un sens positif, si on veut, ici.
À condition qu'on arrive à la...
Oui, bien sûr, mais... C'est-à-dire qu'on n'aurait plus besoin d'en passer par là. Ça, c'est pas évident. C'est sûr que ceux qui pensent que le Beit HaMikdash, enfin le Mishkan, devait être, même s'il n'y avait pas eu le faute de Vaudor, ils ne pensent pas comme ça.